Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui je vous présente un épisode dédié à un duo de chefs que je suis et que j'admire depuis de longues années, Alice Quillet et Anna Trattels de Ten Bells.
En fait, au début, il y a vraiment cette notion de plaisir, que ça soit dans le produit, mais dans l'expérience aussi. Donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup, c'est comment rendre l'expérience agréable aussi quand on est à Ten Bells. Et après, c'était aussi véhiculer les valeurs de Ten Bells à travers nos produits, de la réduction, par exemple, de notre impact sur l'environnement. C'est le sourcing de nos produits, c'est le recyclage ou la revalorisation de nos déchets, c'est le choix de livrer à vélo, de livrer en voiture. Enfin, c'est plein de choses qui vont refléter un peu nos engagements à travers ce qu'on fait.
Alice et Anna sont à la tête avec le mari d'Alice, Anselme Blenet, de l'enseigne Ten Bells, qui est à la fois un excellent coffee shop qui torréfie son propre café, une boulangerie qui fait des pains au levain de folie et un lieu de vie que j'adore fréquenter. Hyper engagées, elles ont fait de leurs produits et de leur métier un médium d'expression envers des causes qui leur sont chères et cela fait d'elles, à mon sens, deux modèles à suivre. Avec Alice et Anna, nous avons parlé de troubles, de nouveaux mondes, d'adaptation et d'intuition. N'oubliez pas, le partenariat avec Elle à table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site elle.fr 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bon bah bonjour Alice, bonjour Anna.
Bonjour.
Vous avez été chef et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une boulangerie coffee shop. Vous vous présentez comment quand on vous pose la question ?
Moi j'ai tendance à dire qu'on est chef d'entreprise d'abord et après chef, parce qu'on est on est toujours chef quand même. Et après moi j'ai rajouté la casquette boulangère, voilà.
Et toi, Anna ?
Toujours chef. En fait, je suis en charge de tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré à Ten Bells. Donc voilà, toujours chef.
Vous, justement, vous vous répartissez les rôles comment ? C'est naturel ? Ça a été difficile ?
Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Donc on est trois associés avec Anselme Blény, qui est aussi mon mari. Lui, il a toujours été en salle. Et donc lui, il gère plutôt la partie, justement l'équipe de salle, mais aussi la torréfaction qu'on a ouvert en novembre 2019. Donc il s'occupe pas mal de cette partie-là et la partie aussi commerciale parce qu'on a une activité de B2B où on fournit les restaurants en pain et en café. Donc lui, il fait cette partie-là. Après, moi, je gère la partie boulangerie et j'essaie de gérer la partie réseaux sociaux. Mais c'est pas facile, surtout quand on est plus âgé que la plupart des utilisateurs. Et après, la partie com aussi, et tout ce qui est un peu stratégie de développement, tout ça. Ça, on le fait tous les trois. Mais ça s'est fait assez naturellement parce que ça fait 10 ans qu'on est associés. tous les trois. Donc petit à petit, on a vu un peu les compétences les uns des autres et ça s'est, on s'est divisé le travail. Voilà. Mais l'année dernière, on a quand même fait un travail tous les trois où on a un peu plus déterminé qui faisait quoi pour essayer d'avancer de manière un peu plus stratégique justement et de voir comment on pouvait prendre des décisions de manière plus rapide et un peu plus éclairée que ce qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant.
Et vous pouvez pas vous appeler boulangerie, tu disais que t'étais boulangère, mais c'est un problème ça parce que vous avez pas le CAP.
La loi en France, il me semble, après j'ai jamais vérifié, mais on m'a dit que pour ouvrir une boulangerie et s'appeler artisan boulanger, il fallait un CAP. Or, personne... Enfin, moi, j'ai pas de CAP. Parfois, dans mes équipes, j'ai quelqu'un qui a un CAP. Et à ce moment-là, je crois qu'on a le droit de s'appeler boulangerie. Mais bon, comme les équipes changent et que notre équipe, maintenant, depuis presque un an et demi, est 100% étrangère, on a quasiment jamais quelqu'un qui a un CAP boulangerie. Voilà. Donc, après, ça nous a jamais vraiment gêné de pas avoir cette enseigne-là parce qu'on a toujours eu pas mal d'activités différentes et d'être plutôt diversifié en fait dans ce qu'on faisait, donc c'est pas très grave de pas avoir l'appellation artisan boulanger.
C'est un comble, une des meilleures boulangeries de Paris qui peut même pas s'appeler boulangerie. Un des meilleurs pains. Et vous avez commencé, ce qu'on disait, co-chef au Bal Café, entre autres, et vous êtes devenue boulangère. Qu'est-ce qui, enfin, je caricature boulangère, ce qu'on a dit, vous faites plein de choses, mais entre autres, super boulangère. Quelle mouche vous a piqué?
En tout cas, avec Anna, on était au Bal pendant 6 ans, dans le 18e, et c'est là qu'on a commencé à faire la cuisine ensemble. Et pour la boulangerie, c'est moi, en fait, qui ai instigé ça. À un moment donné, je m'embêtais un petit peu, et j'aimais bien faire des projets. Donc, j'avais fait un petit peu de charcuterie, et je voulais essayer d'autres choses. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit, tu devrais essayer le pain au levain et d'acheter le livre de Tartine à San Francisco. Et voilà, et j'ai fait ça. Et en fait, c'est un peu comme si j'étais... en anglais, on dit dans le rabbit hole, comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle traverse le miroir et qu'elle va à un nouveau monde. Voilà, j'ai découvert tout un autre métier. Enfin, au début, même, c'était plus un hobby qu'un métier. Et je faisais du pain au levain à la maison, beaucoup. Et j'envoyais des photos à mes amis qui en faisaient aussi. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'était il y a 6 ans, je crois. La seule personne que je faisais dans la restauration qui faisait du pain, c'était James Henry, qui faisait du pain à Bones. Donc, lui me renvoyait aussi des photos de son pain. Et puis après, j'ai commencé à en faire au Bal, en petite quantité, parce qu'on continuait quand même à travailler avec le boulanger qui nous fournissait. Et puis, je suis allée faire des stages à l'étranger, à Mirabel, à Copenhague, et après à Tartine, justement, à San Francisco. Et en rentrant, on en a discuté entre nous et on a dit, on n'a qu'à essayer d'ouvrir une boulangerie au levain à Paris. Il n'y en a pas. Et en plus, on avait trouvé un local par la CEMEST, qui est l'agence de la ville de Paris, qui coopte des locaux dans des zones où, en fait, ils veulent remettre des commerces de bouche. Et justement, dans le 11e arrondissement, donc, il y avait un énorme local de 220 mètres carrés qui était destiné à être une boulangerie. Et donc, on a postulé par la mairie pour avoir ce local. Et ce qui est génial, c'est qu'on donne le fonds de commerce. Donc, il n'y a aucun fonds de commerce à acheter. Bon, après, il faut financer tous les travaux et c'était un bloc en béton avec rien dedans. Mais voilà, après, on est propriétaire du fonds de commerce et on peut le revendre. Mais on a juste un loyer à payer. Et donc, on a postulé en se disant, si ça marche, c'est ce qu'on va faire. Et puis, si ça ne marche pas, on se développe autrement et on fera autre chose.
Vous vouliez quitter le Bal Café à l'époque?
Oui, parce que là, pareil, c'était un lieu culturel qui dépend d'une association et il n'y avait pas de fonds de commerce non plus. Ça faisait 6 ans qu'on était là-bas et au bout d'un moment, si on n'a rien, on a créé une clientèle et on a créé un commerce en fait. Et du coup, on avait rien à vendre de significatif. Donc voilà, on avait déjà quand même, ça faisait.
Vous arriviez au bout peut-être du lieu.
Oui, on arrivait aussi au bout. C'est une super opportunité pour se lancer. On avait déjà le Ten Bells du canal Saint-Martin. Parce que ça, on l'a ouvert en 2012. Donc, ça faisait déjà pas mal de temps que ça marchait bien. Et on savait que le café de spécialité, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur.
et donc de développer la marque Ten Bells en café de spécialité, c'était toujours aussi une option. Et en fait, le fait que ce local dédié à la boulangerie, le fait que moi, la boulangerie m'intéresse et qu'on ait envie de développer le café avec plus loin peut-être l'objectif de faire notre café nous-mêmes. Voilà, c'était un peu ce qui nous intéressait.
Et toi, ça a été aussi une révélation pour toi, le pain ?
Moi, je gère pas du tout le pain, en fait. Je laisse ça à Alice. Je sais faire et ouais, c'est un plaisir de faire ça de temps en temps dans la cuisine. Mais j'aime beaucoup faire...
Tu fais les sandwichs avec
sandwich,
le pain.
Les sandwichs et salades avec le pain, ouais, voilà. Donc récemment, on avait développé les autres pains spéciaux pour les sandwichs spéciaux. Du coup, ça a évolué... l'équipe entière, en fait. Donc, c'est bien en cuisine, ouais. De partager la cuisine entre boulangère, pâtissier, tout ce qui est salé. Et ouais, beaucoup d'inspiration.
Tu parles au féminin, vous êtes surtout des filles ?
Pas maintenant, non. Maintenant, c'est égal, je crois, il me semble.
Et vous avez hésité au moment de changer ou c'était assez clair et vous étiez assez décidée ? Au moment de quitter le bal café, c'est quand même une sacrée...
Je crois que c'était assez clair, c'était le bon moment. On a tous eu les enfants en plus, donc c'était vraiment une décision pour pas travailler le soir aussi, le week-end. Enfin, maintenant on travaille le week-end, mais... et d'avoir une vie famille et travail et... d'essayer de faire les deux et pas rater une pour l'autre. Et ouais, c'était ça aussi.
C'était plus facile avec l'activité Ten Bells que Bal Café. C'était plus évident d'organiser le travail pour avoir une vie de famille.
Au début, c'est toujours chargé. C'est toujours difficile quand tu ouvres un nouveau truc. Mais là, je crois que là, on arrive à un bon moment, on a une bonne équipe. On déléguait plus qu'avant, parce qu'avant on avait tout fait nous-mêmes tout le temps. C'était un peu un control freak, je veux dire. Donc c'est beaucoup mieux là. Maintenant on arrive à un point, oui, je crois que c'est plus équilibre. Enfin, ça dépend s'il y a un pas d'amis ou un grève. Voilà, les autres choses qui arrivent comme ça, mais ouais.
Pour revenir au pain, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le pain et qu'est-ce qui t'a fasciné autant, t'arrives à l'expliquer?
Oui, en fait c'est assez marrant parce que quand on est chef, on a l'habitude d'utiliser plein d'ingrédients différents et les transformer. Et bon, il y a une transformation intéressante entre le produit brut et le plat qui en découle. Mais avec le pain, enfin, pour moi, c'est vraiment une transformation comme nulle part, où on a vraiment trois ingrédients, de l'eau, de la farine et du sel, qui, indépendamment, sont pas très bons. personne ne mange de la farine, personne ne mange du sel tout seul. Bon, l'eau, évidemment, on en boit. Indépendamment, donc l'eau, la farine, le sel, qui sont les ingrédients principaux du pain en levain, sont pas très bons. Bon, personne n'a envie de manger ni de la farine toute seule, ni du sel tout seul. Mais il y a une magie qui opère quand on mélange les trois, où le résultat, vraiment gustativement, est, enfin, pour moi, hyper intéressant. Et il y a une satisfaction quand on arrive à transformer ces trois ingrédients qui à la base sont pas très bons tout seuls et de faire un truc qui ait autant de goût et qui soit aussi délicieux. Après aussi, pour moi, la magie du pain au levain, c'est le fait que ça soit vivant. Et que ça soit quelque chose dont on doit s'occuper, qu'on doit observer. Bon, il y a des raisons scientifiques pour tout ce qui se passe dans un levain, mais je pense qu'on peut avoir aussi un peu une approche intuitive et un peu sensorielle, en fait, quand on fabrique du pain, parce que même moi, je comprends pas toutes les réactions chimiques qui se passent dans la pâte, mais on peut développer une sorte d'intuition et d'apprivoiser un peu son levain et après sa pâte et sa façon de faire du pain. Et donc, même si moi, je mélange les trois mêmes ingrédients tous les jours depuis 4 ans maintenant, c'est toujours aussi fascinant et c'est toujours aussi satisfaisant parce que chaque jour est différent et en fonction de la météo, de la farine, et le résultat est plus ou moins différent. Je pense que les clients ne s'en rendent pas compte, mais nous, en tant que boulanger, on goûte tous les jours le pain, on prend des notes et on arrive à établir des différences d'acidité, de mie, de croustillant, de voilà, tout ça, tous les petits détails qui font qu'on va essayer de se perfectionner à chaque fois et d'avoir vraiment la miche parfaite. Et j'en ai déjà parlé avec des boulangers, et en fait, enfin, pour certains, il y a vraiment peut-être 2 jours dans l'année où on arrive à avoir le pain parfait. Et que voilà, et que c'est vraiment et ça on le ressent au plus profond de son corps, mais que sinon il y a tous les jours il y a cette quête de est-ce que aujourd'hui va être le jour où je vais faire vraiment la miche parfaite, voilà.
C'est un défi intellectuel que vous oui. lancez.
Un peu de geek du pain. Ouais.
Est-ce que vous essayez tous les jours de, en fait le but c'est de reproduire oui tous les jours cette miche parfaite un peu. Enfin j'ai cette image du champagne, tu vois, qui est un mélange souvent pour les bruts sans années, où les chefs de cave ils essayent de refaire un peu le même goût, d'avoir le même goût avec des assemblages des raisins différents d'une année sur l'autre. Et là c'est un peu, enfin c'est pas que c'est un peu pareil, mais dans le sens où vous essayez d'avoir une linéarité quand même avec des produits qui sont vivants, ce que tu dis.
Oui, voilà, c'est déjà on a une responsabilité envers nos clients d'avoir une régularité parce que eux ils servent notre pain dans leur restaurant et vis-à-vis des clients qui viennent acheter leur pain dans la boutique. Mais oui, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on goûte tous les jours, qu'on en parle, qu'on prend des notes et qu'on va aussi, pour ceux qui débutent, apprendre à mettre des mots pour décrire en fait les différentes acidités ou les différentes textures en bouche ou les différents croustillants de la croûte. Toutes ces choses-là, en fait, on va travailler dessus et on va essayer de créer une sorte de vocabulaire Ten Bells qui va correspondre un peu à ce qu'on essaye de créer.
Et justement, apporter votre regard aussi sur cet aliment phare de la culture française, c'était quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous avez commencé ?
Bah oui, j'y ai pas mal pensé, on en a beaucoup parlé entre nous aussi, c'est on a toujours eu un peu ce côté outsider de la restauration en fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Bal Café, c'est un restaurant aux aides de la gastronomie anglaise. Donc ça, c'était Anna la pilote sur ce projet-là, parce qu'elle avait travaillé à St. John, à Bread & Wine à Londres. Donc on est arrivé à Paris en 2009 et on a dit, bon, on va ouvrir un restaurant anglais. Et là, tout de suite, les gens ont dit, non mais vous êtes fous, personne ne veut manger de la cuisine anglaise. Ils avaient tous des très mauvais souvenirs de leur séjour linguistique et de ce qu'ils avaient mangé. Donc déjà, ça c'était, mais bon, ça a bien marché, on a fait découvrir le brunch anglais et tout ça, donc on a eu pas mal de succès avec ça. Et après, quand on a dit, bon, maintenant, le café de spécialité, c'était un peu pareil parce qu'on était parmi les premiers coffee shops à faire du café de spécialité. Et déjà, les Français aussi nous disaient, mais bon, le café, la culture du café en terrasse à Paris, elle est très bien. Tout le monde adore boire son café au comptoir. C'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Et en fait, on a dit, vous vous rendez pas compte, mais ce qu'on boit dans une brasserie, c'est un monopole en général de la maison Richard. C'est du café qui est pas de très bonne qualité, qui est pas moulu pour chaque tasse. Et là, pareil, on a dit, on va faire ça différemment et on va un peu montrer qu'on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Et après, pour le pain, nous, on avait remarqué qu'il y avait quand même un peu une crise dans la boulangerie française, dans le sens où l'artisan boulanger est un peu sacré. Et on ne demande jamais d'où viennent les ingrédients, comment c'est fait. En fait, le consommateur français a l'habitude de demander maintenant de plus en plus d'où viennent les légumes, d'où viennent la viande, le poisson. Mais le pain, c'était vraiment genre on n'y touche pas, tout va bien.
Il y a un monopole, comme tu disais, pour le café. Il y a un monopole des moulins de farine qui...
Exactement. Et après, ce sont des entreprises qui sponsorisent énormément les boulangeries. Et déjà, l'économie d'une boulangerie est assez compliquée parce que ça demande beaucoup de travail et on peut pas avoir beaucoup d'employés. Enfin, bon, c'est compliqué. Donc, du coup, qui aide les boulangeries en leur donnant du matériel, du merchandising, enfin tout ce qu'il faut. Et enfin, tu peux faire le test dans une boulangerie et leur demander d'où viennent leurs farines et la plupart des gens savent pas vraiment en fait. Et c'est pas toujours du blé français, c'est pas toujours du blé local. Voilà, bref. Et donc, nous, on s'est dit, on va pas faire des baguettes déjà, et on va avoir une transparence sur la provenance des produits, et on va pas avoir les sacs estampillés avec le logo du fournisseur de farine, et on va vraiment faire notre truc à nous. Et tant pis, au début les gens nous demandaient mais pourquoi vous faites pas de baguettes, on est en France, pourquoi il y a pas de viennoiserie, vous...
Alors vas-y, explique-nous une bonne fois pour toutes pourquoi vous ne faites pas de baguettes. On avait déjà eu ces discussions, mais c'est hyper intéressant aussi l'explication, même si tu la répètes tout le temps.
Non, enfin, il y a plusieurs raisons, mais déjà, on aime beaucoup le pain en levain parce que c'est un produit qui se garde longtemps. Donc, d'un point de vue aromatique, ça devient de plus en plus intéressant chaque jour. Et aussi, ça se conserve, et donc il y a un côté anti-gaspillage qui est important pour nous parce que tout le monde sait que souvent, on t'achète une baguette et le lendemain, elle est toute dure. Bon, tu peux la toaster et la manger, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on voulait aussi un produit qui reflète un peu les valeurs de Ten Bells, donc qui soit bon, mais aussi qui soit quelque chose qui se conserve et qui fasse pas partie de tout le gaspillage alimentaire qu'il y a à notre époque. Et après, la deuxième chose, c'est que la fabrication de baguettes demande beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de l'équipement et tout ça, et donc nous, si on le faisait comme on fait notre pain en levain, on vendrait notre baguette à 4 €, et on voulait pas vendre une baguette à 4 €. Voilà,
les gens sont pas encore prêts à faire ce pas là,
même si nous on essaie quand même de le fait que les clients comprennent la juste valeur des produits. Je pense que c'est pas possible, et même le pain au levain fait quand même partie du patrimoine culinaire français. Il y a pas que la baguette, en dehors des grandes villes, souvent les gens mangent plutôt ça. Donc c'était aussi pour ça.
Ouais, vous êtes inspiré du modèle anglo-saxon aussi dans votre recherche. Tu disais que tu avais fait des stages chez Mirabelle à Copenhague et chez Tartine. Ça vous a aussi nourri pour façonner votre propre pain. Vous avez commencé d'ailleurs avec le pain signature, enfin je sais même pas s'il a un nom, votre pain...
On l'appelle le classique. Oui, on a commencé par le pain classique, le pain en levain, qui est un mélange de 3 farines de blé, d'eau et de sel.
Et après, vous avez développé la gamme, ce que disait Anna.
Oui, au début, c'était surtout pour les sandwichs. Donc, on fait de la focaccia et de la brioche. Après, on a un pain du jour qui change en fait en fonction de l'envie des boulangers qui travaillent. Donc, il est jamais fixe. Et en fait, ça vient sûrement du fait que moi, comme je suis aussi chef, je voulais un petit peu de créativité, même si j'aime bien mélanger les 3 mêmes ingrédients tous les jours. Je voulais un petit peu de créativité, et dans l'équipe, il y a énormément de boulangers qui sont des anciens chefs aussi, et qui sont autodidactes en boulangerie, et donc ça permet d'avoir un peu de créativité et puis ça plaît aux clients. On a un pain complet aussi qui est un mélange avec de l'épeautre, et là ça fait quelques temps qu'on a réussi à recycler nos invendus quand on en a qui nous restent. En fait, on fait des dons à des associations, des invendus, mais quand il y en a vraiment beaucoup, par exemple quand il y a des grèves ou des pandémies, on fait une pâte avec le pain. En fait, on le fait sécher, après on rajoute de l'eau, on fait une pâte, et celle-là, on la remet dans les pâtes à pain. Donc c'est un ingrédient en plus, et le pain complet, il y a 30% de pain recyclé. Et en fait, ça fait partie de plein de choses qu'on fait pour réutiliser et revaloriser nos déchets. Et Anna pourra en parler, parce qu'on fait un truc super intéressant avec le lait. Donc ça fait partie des choses qu'on a mis en place et des recettes qui évoluent aussi pour pouvoir intégrer justement notre politique de réduction du gaspillage.
Pour parler de la personnalité du pain, il est, même s'il n'y avait pas beaucoup de pain au levain, c'est vrai qu'il a, une personnalité différente de ce qu'on peut trouver dans les autres boulangeries, une croûte beaucoup plus fine, une mie plus aérée. C'est venu aussi des différentes expériences, de ce que vous aimiez manger.
C'est la typicité du pain Ten Bells vient de ce qu'on aimait manger, mais aussi, enfin, beaucoup honnêtement, de ce que j'avais appris à San Francisco. Donc ça reflète quand même, il y a des gens qui rentrent dans la boulangerie qui disent, ah mais ça ressemble au pain de tartine à San Francisco. Donc c'est vraiment un pain hommage, mais qui a évolué depuis, mais au début c'était vraiment ça, parce que c'est ce qu'on aimait manger. Mais c'est vrai que souvent le pain au levain, il peut être un peu dense et un peu acide, et bon parce que les farines utilisées sont super et ont un très bon goût, mais il y a un côté un tout petit peu pain punition, pas, où la notion de plaisir n'est pas nécessairement le principal objectif du pain. Il y a un côté un peu bénéfique pour le corps ou voilà. Et donc nous, peut-être aussi parce qu'on est restaurateur, on voulait vraiment que ça soit le pain gourmand et qu'il y a principalement le plaisir et après le côté évidemment bénéfique parce qu'il y a une digestibilité, parce que voilà, c'est des farines bio et tout ça. Mais au début, c'était vraiment la notion de plaisir et du pain qu'on peut manger tout seul ou du pain qu'on peut tremper pendant des heures dans la sauce de ses moules ou dans la vinaigrette de sa salade de tomates. Voilà, et je pense que s'il a autant de succès auprès des restaurants aussi, c'est parce qu'il correspond à ces critères-là. Et c'est vrai que de faire une mie alvéolée et assez humide, en fait, c'est parce qu'on hydrate beaucoup notre pâte. C'est certainement une influence américaine plus qu'autre chose.
Et c'est vrai que tu parlais d'anti-gaspillage, que la miche se garde longtemps, mais c'est difficile de la garder longtemps. Généralement, elle fait pas long feu. Et ça, est-ce que ça a été un atout aussi pour le fait d'être chef, d'avoir travaillé dans le milieu déjà pour se lancer? Est-ce qu'il y a une influence sur les pains? Vous disiez que vous travaillez aussi les recettes. Vous laissez aussi de la liberté sur les recettes. Est-ce que votre ancien métier, votre passage en cuisine vous influence au quotidien?
C'est sûr que ça nous permet d'avoir une approche différente et de savoir faire autre chose et de pouvoir s'adapter aussi aux différentes situations. Là, par exemple, vu le contexte sanitaire, on a dû fermer comme tout le monde et là, on a dit il faudrait qu'on se diversifie un peu, même de manière très courte, pour pouvoir essayer de remettre un peu de trésorerie chez nous. Et donc on a monté une soirée pizza deux fois par semaine où on fait une pâte au levain avec les mêmes pourcentages de farine que notre pain, donc qui reflète ce qu'on fait d'habitude. Le fait que je pense qu'on soit chef fait que ça a été une transition assez facile, parce que qu'il s'agisse de sourcer les bons ingrédients ou de faire des garnitures, tout ça, on avait quand même un avantage. Et par exemple là, on a commencé la semaine dernière une pizza avec de la saucisse et on est capable et on a fait notre propre saucisse pour mettre sur la pizza. Et donc ça, je pense que tout le monde ne peut pas faire ça, mais nous, pour nous, c'est un avantage en fait de pouvoir facilement s'adapter à une situation où on a décidé de changer notre activité, même temporairement. Et ça, c'est sûr que ça vient de notre parcours.
Et c'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a toutes les recettes aussi de scones, de sandwich, de les breakfast buns et les buns sucrés aussi. Ça, c'est toute la partie d'Anna, donc c'est ça. C'est ouais, plus ouais, ta ouais. partie, ça.
Ouais, et tout est fait maison, quoi. Le mayonnaise jusqu'au ricotta, le chutney, ouais, tout. Donc, on pratique toujours notre métier de chef aujourd'hui.
Ouais, même dans les sandwichs, dans les salades, comme tu disais, ou sur les pizzas, un peu partout, vous continuez à pratiquer tous les jours.
Oui, ça peut être très simple, mais bon, qualité et bien fait, ouais. Et c'est important pour nous de travailler comme ça, toujours.
Tu rêvais de faire de la cuisine quand tu étais enfant?
Non, pas du tout.
Tu voulais faire quoi?
J'ai rêvé de bien manger. Et j'ai vu bien manger. Ouais, avec ma famille et chez la famille et les amis. Mais non, c'était jamais un rêve d'être en cuisine. Mais j'ai tombé en cuisine comme ça en France avec Alice à l'époque à Rose Bakery, il y a longtemps.
Mais par hasard, t'avais pas fait d'études?
Non, pas du tout. J'avais travaillé dans un restaurant latin-américain à Londres avec les amis, mais pas forcément en cuisine.
T'as fait des études, d'art
de beaux-arts, ouais. De beaux-arts. Ouais, ouais, par la cuisine. Et voilà, donc j'ai tout laissé tomber pour rentrer dans la cuisine.
Ça a été une révélation ?
Non, je peux pas dire ça. Ouais, au début, c'était pas une révélation, c'était juste j'arrivais à Paris, pas de boulot, j'ai tombé dans
alimentaire.
Oui, voilà, j'ai tombé dans un restaurant, voilà. J'étais serveuse très mauvaise parce que j'ai pas parlé français là. Et j'ai caché en cuisine un peu, donc voilà, j'ai resté en cuisine. Mais c'était après quand j'ai rentré en Angleterre pour faire des autres choses en fait, pour casser un peu la vie en cuisine en France. Et j'ai tombé à St. John Bread and Wine pour manger un dîner un soir, et trois semaines après, j'étais là en train de travailler parce que c'était vraiment un coup de cœur. Et ouais.
Donc c'était parti. Là, tu as eu la révélation.
Oui, voilà, c'était après, ouais.
Tardive. Et toi, Alice, toi, tu as fait des études journalistes.
Oui, enfin non, j'ai pas fait des études de journaliste. J'ai fait de la philo et des lettres à la fac à Dublin, à Trinity College. Et après la fac, bah, je suis allée travailler à Rose Bakery parce que je pensais peut-être vouloir être chef. Et c'est là que j'ai rencontré Anna. Donc on était les deux premières chefs là-bas, rue des Martyrs, en 2003. Mais au bout d'un an et demi, j'étais pas sûre que je voulais faire ça parce que c'était difficile, pas bien payé. Voilà, j'étais pas tout à fait sûre de vouloir faire ça. Donc je suis partie voyager. Et après, en rentrant au bout d'un an, comme j'avais fait des études de lettres en anglais, j'ai postulé pour travailler un journal, l'Herald Tribune, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai travaillé 3 ans là-bas. Et comme c'est le système anglo-saxon, on peut entrer dans ce genre d'entreprise et commencer par faire des photocopies. Et puis après, petit à petit, on peut proposer des sujets, on peut faire plein de choses. Donc j'ai bossé au sport, aux pages point de vue, enfin opinion, à la rédaction où j'apprenais à être SR, enfin plein de choses différentes. Après, au bout de 3 ans, mon mari a eu un job à New York. Et donc, je suis partie à New York pendant 2 ans où j'ai travaillé pour le magazine Monocle, qui est un mensuel qui fait l'actualité, business, culture, design. Voilà, dans le bureau US, enfin le bureau Amérique qui supervisait l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et c'était hyper intéressant, mais au bout de 2 ans et demi à New York, on s'est dit qu'on voulait rentrer en France. Et c'est là qu'on, je sais pas si c'était sur Skype ou au téléphone, mais Anna nous a dit qu'on lui avait proposé un projet, donc au bal, parce que c'était, en fait, ils avaient d'abord contacté Rose Bakery, qui avait dit non, nous on a d'autres projets, mais vous devriez demander à Anna et Alice Ansem, parce qu'ils sont toujours assez intéressés et peut-être que ça pourrait marcher. Donc elle nous a appelé à New York en disant voilà, il y a ce projet là, ça vous dit? Et on a dit ok, on y va. Et donc on est rentré à Paris, on avait 1 an avant que les travaux soient terminés et que le tout soit lancé en même temps, parce que le bal, c'est une salle d'expo dédiée donc à l'image document et une librairie, donc il y avait tout à lancer en même temps. Et on est rentré à Paris. Et en attendant de monter le projet, on s'est dit, on va tous retourner en cuisine ou alors dans un restaurant, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Enfin, surtout pour Anselme et moi. Anselme avait travaillé avec nous à Rose Bakery aussi. Donc on est
tous les trois. Étiez rencontrés tous les trois là-bas ?
Non, moi je le connais depuis qu'on était au lycée ensemble. tous les trois, on avait déjà travaillé ensemble. Ce qui était quand même assez important avant de se lancer en tant qu'associé. Donc Anselme est allé travailler à Willy's Wine Bar pendant 1 an. Moi, j'ai travaillé à la laiterie Sainte-Clotilde dans le 7e, tout en faisant des piges pour Monocle. Et Anna a un peu bossé dans quelques restos, mais elle avait une petite fille de 6 mois. Ouais, ouais. Voilà, donc il y avait aussi ça à gérer.
C'est chouette de voir que vous ayez grandi ensemble et que vous continuez que le trio dure depuis ce temps.
Ouais, c'est un peu comme un mariage, en fait.
Un mariage à trois.
Enfin, je veux pas être super cheesy, mais il y a des hauts et des bas, mais il y a une sorte d'engagement au début, et après on essaie de rester fidèle à cet engagement, mais évidemment c'est pas toujours facile. Après, on a eu d'autres associés, on a eu d'autres projets qui sont plus ou moins terminés. Je ne dis pas qu'on a eu un parcours idéal et linéaire, parce que c'est quand même très difficile.
Et il y a une précarité quand même qui est assez importante dans ces métiers-là, où on en demande beaucoup de nous, mais aussi de nos familles et de nos amis et de nos conjoints et tout ça. Donc c'est pas toujours facile. Mais oui, on a de la chance. Notre couple voilà, marche bien.
Ouais, ça fait 11 ans là.
Ça fait 11 ans.
11
ouais.
ans de mariage. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme noce, 11 ans, mais.
Je sais pas, c'est aussi mes 11 ans de mariage en plus, donc je devrais regarder.
Ouais, une grosse partie aujourd'hui de votre business se fait en B2B. C'était est-ce que c'était voulu ou pas du tout? C'est venu.
Pour le pain, c'était pas du tout voulu. On a ouvert avec des retards sur les travaux et on avait un peu dépassé notre budget et on était un peu dans une situation assez difficile, extrêmement stressante et on savait pas trop comment on allait terminer l'année. On a ouvert en juillet, fin juillet de 2016 et on était, c'était vraiment pas une période facile et heureusement des amis de la restauration nous ont dit j'ai besoin de ça, on a nos amis de Quixotic qui ont la Candelaria, le Marie-Céleste, et donc ils venaient d'ouvrir les grands verres au Palais de Tokyo. Josh et Karina qui nous ont dit on fait les travaux du restaurant, mais on ouvre une buvette, est-ce que vous pouvez nous faire tous les jours des sandwichs et tout ça? Donc on a fait ça. Il y a Flo qui a le café du coin et Jones et tout ça qui nous a dit nous on va vous prendre du pain aussi. Après, ses associés qui ont d'autres restos comme les Pères Pop nous ont pris. Donc petit à petit, on a commencé à faire du B2B, mais c'était vraiment pas du tout, c'était même pas dans notre business plan.
Ah oui?
Ouais. Et maintenant, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires.
Ouais, c'est beaucoup ce que j'allais dire, puisque c'est vrai que vous fournissez, on retrouve le pain dans plein de restos.
Oui, on fournit plus de 70 restaurants. Et donc ça nous a... Je pense qu'on aurait fermé si on n'avait pas eu cette activité-là.
Ouais. Ah ouais, carrément.
Ouais, carrément. Donc on leur doit beaucoup. et après, petit à petit, le bouche à oreille. Après, il y avait cette démarche aussi du fait que ça soit une fermentation naturelle, donc pour tous les restos qui proposaient du vin nature et qui voulaient qu'il n'y ait pas de levure industrielle dans leur pain comme dans leur vin. Voilà, donc c'était cohérent avec un peu l'air du temps aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a, je pense que ça a marché. Et après, encore une fois, on comprenait un peu en tant que restaurateur, les impératifs et les besoins des restaurants. Et on a pu s'adapter un peu à eux. Et justement, le fait que le pain se conserve plusieurs jours, ça permet de faire plusieurs services. Voilà.
Et qu'est-ce qui guide, tu parlais de gourmandise, mais qu'est-ce qui guide votre production, enfin, je ne sais pas si on veut dire votre production, mais qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux clients à travers votre production, à travers vos pains, à travers vos produits?
En fait, au début, il y a vraiment cette notion de plaisir et de que ça soit dans le produit, mais dans l'expérience aussi. Donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup, c'est comment rendre l'expérience agréable aussi quand on est à Ten Bells. Et après, c'était aussi véhiculer les valeurs de Ten Bells à travers nos produits. Donc ça, c'est de la réduction, par exemple, de notre impact sur l'environnement. C'est le sourcing de nos produits. C'est le recyclage ou la revalorisation de nos déchets. C'est le choix de livrer à vélo, de livrer en voiture. Enfin, c'est plein de choses qui vont refléter un peu nos engagements à travers ce qu'on fait. Après, on est loin d'être parfait. On est toujours en train d'adapter tous les jours notre sourcing, notre façon de travailler et tout ça, mais ça fait partie des choses qui en fait sont devenues des priorités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, même si ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble, c'est vraiment quelque chose d'assez récent en fait d'avoir voulu mettre en place ces priorités-là et en faire quelque chose une sorte de ligne éditoriale en fait pour Ten Bells et aussi une façon de recruter, une façon de communiquer, plein de choses en fait.
Je sais que c'est hyper important justement dans votre modèle et dans vos produits aussi, mais j'ai une tradition, c'est le questionnaire aller-retour. Voilà. Alors votre âge?
40.
42.
Votre plat signature ou pain signature? Sandwich signature.
À la maison ou professionnel?
Comme vous voulez. Ce qui vous vient à l'esprit?
Ce que le staff me demande souvent au repas du personnel, c'est le kadjeri, qui était un de nos plats signature du Bal Café et qui est un plat typiquement anglais, du petit-déj?
Enfin, moi, j'aime faire les pork pies et on fait un super sausage roll
ah oui,
à Tembels.
Je suis complètement fan. Votre plat préféré à manger?
Moi, c'est le fromage. Même si c'est pas un plat, je pourrais en faire un plat, un repas entier.
Moi, je suis fan de tout ce qui est ravioli. Et voilà, donc par exemple, les raviolis du Nord.
Au Nord-Est.
Nord-Est.
Ouais, Nord-Est de la Chine.
Voilà, je mange ça.
Le chef que vous admirez le plus, chef ou personne de la restauration un peu large, consensuel?
Oui. Je sais pas s'il y a des chefs en particulier que j'admire, enfin il y en a beaucoup et trop pour en choisir un seul, mais j'admire énormément toutes les femmes qui travaillent dans notre milieu parce que c'est vraiment pas facile. Donc toutes celles qui persévèrent, qui arrivent, qui arrivent à avoir une vie de famille aussi, c'est celle-là que j'admire.
T'es d'accord, Anna?
Je suis d'accord avec ça.
T'as pas une personne en tête, un nom de personne comme ça que tu veux donner?
Bah, aller skier, par exemple.
Ah, mais c'est ça, j'aurais dû dire Anna.
Votre ingrédient préféré?
Préféré ou nécessaire?
Non, préféré.
Préféré.
Moi, c'est le beurre.
On est très dans les produits laitiers, Alice.
Oui, et pourtant, je ne bois pas de lait. Mais tant que c'est de la crème, j'aurais pu dire la crème fraîche aussi. Mais le beurre, le fromage, la crème fraîche, ça fait partie de mes trucs préférés.
Pour moi, je suis addict de chili sauce, donc c'est ça.
Et votre ingrédient détesté?
Trop de maïzena dans la sauce des plats chinois, voilà.
Moi, j'ai pas vraiment, honnêtement, j'ai pas d'ingrédients que je déteste.
Que vous aimez pas? Non, il y a pas un truc que t'aimes pas?
Non. Non, pour Anna, je pensais que tu détestes quand il y a des pistaches dans les terrines. Ah oui, quand on n'enlève pas la peau des poivrons rouges, ça me rend dingue. Mais voilà, ça c'est plus un
toc de cuisinière.
Un toc, mais pas un ingrédient que j'aime pas.
Votre ustensile fétiche?
J'ai ramené du Japon un petit écumoire, qui d'ailleurs est à Tenbelt, dans la cuisine, et voilà, c'est ça.
Tu l'adores.
Je l'adore, ouais.
Votre dernier meilleur repas?
Bah, c'est dur parce qu'on n'a pas été beaucoup au restaurant ces 6 derniers mois.
Je mange un kebab près de chez moi à Montreuil. C'est un super kebab. Une fois par semaine. Donc pour ce moment, c'est ça pour moi.
C'est ça. Voilà. Faudra que tu nous donnes l'adresse. Hein.
Xanthos à Montreuil.
Et toi, Alice?
Peut-être que le dernier meilleur repas que j'ai fait, c'était pendant le confinement, quand j'ai eu 40 ans. Et on était dans le sud-ouest, au bord de la mer. Et donc, on a mangé des linguini au crabe. Et ma mère m'a fait un cheesecake.
Le
meilleur repas de l'année. Voilà, c'était ça. Et j'ai bu du morceau aussi, donc c'était très bien.
Et le meilleur compliment qu'on vous ait fait?
Enfin, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, ce qui fait toujours très plaisir, c'est quand les gens me disent qu'ils ont acheté un pain et qu'ils en ont mangé la moitié avant même d'arriver chez eux ou de passer à table. Voilà, ça me fait toujours plaisir.
Pour moi, c'est aussi un peu la même chose, mais que les gens, ils reviennent chaque jour pour un truc spécifique, genre un breakfast bun ou un scone ou... Voilà, ils sont fidèles à cet plat.
Et la pire critique?
Oui, non, enfin moi c'est encore à voir avec le pain parce que on aime bien faire du pain bien cuit et on a énormément de critiques là-dessus. Et bon, parfois il est peut-être un tout petit peu trop cuit, ça arrive évidemment, mais j'ai déjà eu des réflexions du genre qu'il y a une dame qui m'a dit que mon pain était une abomination culinaire.
En même temps, t'as pas rigolé?
Non, enfin, c'était tellement surprenant. Et en fait, elle trouvait qu'il était trop cuit et qu'elle pensait que j'allais lui donner un cancer parce que la croûte trop cuite était cancérigène. Donc, enfin, c'est une critique, mais après, c'était tellement
fort que
exagéré que voilà, c'est surprenant quand même.
Qu'est-ce qui vous amuse le plus chacune dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous préférez faire dans votre quotidien? Parce qu'on fait tous des choses.
Oui.
Voilà, aussi par obligation, mais qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans le métier?
Bah, certainement Tembels dans la cuisine où on partage, tout le monde partage la cuisine. Donc il y a pas mal de gens et tout le monde vient des pays différents. Et il y a toujours une histoire ou un jeu de mots ou un truc à apprendre. Et c'est vraiment un très sympa atmosphère. Voilà.
Enfin, moi, j'ai quitté un peu la production de pain quotidienne. Donc, en ce moment, ce qui me plaît le plus, c'est de faire autre chose et de, en fait, d'apprendre à faire d'autres parties du business, en fait. Et donc, par exemple, de m'occuper des réseaux sociaux. Bon, il y a 6 mois, j'ai googlé stratégie réseaux sociaux sur Internet pour comprendre comment on écrivait une stratégie, voilà. Mais d'apprendre ce genre de choses, voilà, tous les jours et d'en parler avec d'autres personnes qui font ça, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Vous échangez beaucoup avec les confrères d'autres restaurants, j'ai l'impression.
Oui, on échange beaucoup. Pendant le confinement, il y a eu pas mal de groupes WhatsApp et de groupes Instagram de restaurateurs pour un peu s'entraider. Mais après, on échange beaucoup. Moi, j'ai tendance surtout à échanger avec les femmes dans notre milieu. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même une... Surtout, en fait, pour la communauté internationale et la communauté un peu de cuisine, de quartier, bistrot, voilà. J'échange pas avec des chefs 3 étoiles. Enfin, c'est, c'est rare. Voilà.
Vous êtes, on parlait d'engagement tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes très engagée dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux. On va commencer par le thème de l'écologie. On va parler après des autres thèmes. Mais vous avez arrêté d'utiliser du plastique dans toute la cuisine.
Itérable. Ouais.
Mais ça, c'était dur à faire.
On était sur le dernier rouleau, les films itérables. On avait dit plusieurs fois avant ça, on va arrêter. On n'a pas trouvé le système. Et tout d'un coup, on avait dit, OK, là, c'est la dernière fois, il faut qu'on arrête. Et on avait acheté les autres boîtes avec des couvercles. C'est un truc simple, mais... Et on avait juste arrêté un jour à l'autre.
Donc, ah ouais, ouais, vous êtes vraiment mis un gros défi.
Et OK, allez, stop. Faut qu'on se débrouille demain, tu vois. Et du coup, on arrive à faire ça. Souvent, on se met en situation, OK, maintenant... On essaye arrête de faire ça et on ne retourne pas en arrière. Tu vois, on arrive à avancer.
Et vous avez acheté, c'est quoi? C'est de la cire d'abeille? Je ne sais plus, les trucs en cire d'abeille pour remplacer, non?
Non, pas dans la cuisine. Ouais. Non, on utilise le papier pour...
papier sulfurisé.
Voilà, un peu pour arrêter la crème pâtissière, une peau, voilà, par exemple. Mais sinon, on met les couvercles et tout est... Tout est facile avec ça.
Et en fait, c'est pas si difficile d'arrêter,
non,
tu veux
fait,
dire
en fait, c'était pas du tout difficile d'arrêter, ouais.
Parce que vous en utilisiez
on
beaucoup.
On lave plus les couvercles, on cherche plus les couvercles dans les bacs, mais oui, c'était facile, en fait, ouais. Je crois que tout le monde peut faire ça, hein, c'est, ouais.
Et il y a plein d'autres choses aussi. Alice parlait du pain réutilisé. Pareil, je me souviens que vous aviez fait des choux avec des craquelins de pain réutilisé. De marc de café. Le lait aussi, tu disais
ouais,
tout à l'heure.
On garde tout le lait qu'on utilise pour faire les cappuccinos et tout ça. On garde tout ce qui reste dans le petit pichet, dans le frigo. Et on réutilise ça pour faire notre propre ricotta. Donc, le ricotta, c'est pour les quiches, les salades, tout ce qui est salé, les sandwichs. Et avec tout ce qui reste, le petit lait, le whey, on utilise souvent pour braiser un échine de porc toute la nuit ou pour faire un espèce de caramel avec en fer réduit ou remettre dans le pain. Donc, on essaye le plus de tout utiliser. Et comme ça, il y a moins de gaspillage. Et c'est intéressant parce que t'es un peu forcé de découvrir les autres recettes, les autres systèmes à utiliser tout ce qui reste. Voilà.
Et ça se fait. Tu vois, c'est vrai que, enfin, ça a l'air, est-ce que c'est compliqué à mettre en place à l'échelle d'une cuisine? Mais bon, en tout cas, vous pouvez montrer qu'en réfléchissant, vous arrivez à mettre en place un système hyper vertueux et de le réaliser. En plus, vous avez quand même une grande cuisine. Enfin, vous êtes nombreux et...
On a une super équipe, ouais. Ouais, enfin, tout est impossible jusque, c'est possible, tu vois. C'était pas Nelson Mandela qui avait 10 ans. Mais, ouais, dès qu'on met en place un système, comment utiliser ça, comment on fait ça, qu'est-ce qu'on on garde ça pour combien de temps, et tout est clair, donc c'est facile à impliquer dans la cuisine pour l'équipe.
Et l'équipe vous suit là-dessus, enfin ils sont assez réceptifs,
ouais,
à
ouais,
ça.
Ils sont tout à fait motivés de faire ça aussi avec nous. Ils ont les aidés, ils ramènent aussi. Voilà, c'est une super équipe.
Je voulais juste ajouter qu'on a beaucoup de stagiaires qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et en fait, on a beaucoup appris aussi, surtout dans ceux qui sont un peu plus avancés en termes d'écologie. Et donc, on apprend beaucoup de choses de ces restaurants-là. Donc, on a des stagiaires, par exemple, de Damas à Copenhague, où ils ont leur jardin potager et où par exemple, eux, quand ils lavent des légumes ou qu'ils font un bain de glace pour stopper la cuisson des légumes, ils conservent l'eau et ils s'en servent pour nettoyer le sol.
Ah ouais,
voilà.
Ouais.
Donc, il y a plein d'idées à prendre de tous ces restaurants. Et nous, comme on accueille beaucoup de stagiaires d'un peu partout dans le monde, on a souvent, on arrive à en fait avoir ce genre de tips,
ouais.
Pour mettre en place des systèmes. En fait, il y a toujours une période d'adaptation qui est difficile. Et après, 3 mois après, on se dit, mais en fait, on l'a intégré et voilà. Mais il y a toujours aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours aussi à voir si ça vaut le coup financièrement. Parce que si de faire sa ricotta et de recycler son lait et tout ça, ça prend 3 heures à quelqu'un, pour après dans un sandwich qu'on vend à 6 euros, ça vaut pas toujours le coup. Donc on a aussi toujours cet élément où on peut pas se permettre non plus de faire des choses qui vont prendre des heures et des heures et qui vont nous coûter de l'argent aussi. Donc, il y a toujours une décision à prendre.
Un équilibre entre les deux. Et ça s'arrête pas, vos convictions s'arrêtent pas à l'écologie. On parlait de l'égalité homme-femme, par exemple, de l'engagement contre le racisme, contre les violences en cuisine. C'est important pour vous de vous servir de la cuisine pour faire passer des messages très forts et une implication.
Ouais, c'est sûr, parce qu'on a un plafond, assez grand quand même. Il y a beaucoup de gens qui passent par nous et beaucoup de followers sur Instagram et beaucoup de staff entre nous et les amis aussi dans les restaurations. Donc on a un grand plafond et on est un peu c'est notre responsabilité de parler de tout ça dans une manière correcte et facile à comprendre et facile à d'avoir un dialogue.
On a mis en place au sein de Ten Bells une sorte de comité informel qui s'occupe de l'engagement justement de Ten Bells, qui est sur la base du volontariat pour le staff. Et on se réunit pour décider de quelles sont en fait les associations avec lesquelles on va bosser, quelles sont les prochaines grandes journées où on peut lever des fonds, par exemple. Voilà, donc là on a fait un truc pour la Pride. Et on a levé 2000 euros pour le MAG, qui est une sorte de refuge pour les jeunes 16 à 25 ans LGBT, qui soutient et qui fait de l'éducation et de l'aide. Après, on a participé à Bakers Against Racism, où là, pareil, on a levé des fonds pour une plateforme média dédiée à l'expérience noire en France. On fait des choses assez régulièrement pour la précarité menstruelle, enfin plein de choses différentes et c'est important. Et là on va mettre en place une campagne qui va de longue durée pour le Rwanda parce que notre importateur de café vert nous a dit qu'il y avait eu un glissement de terrain au Rwanda dans une zone de production de café et qu'ils ont besoin de reconstruire là on a déjà diffusé la page de crowdfunding pour que les gens fassent des dons, mais on va mettre en place un truc sur un an en fait où il y aura sûrement une journée par mois où les gens pourront rajouter un pourboire à leur consommation et comme ça on récoltera de manière régulière quelque chose pour aider cette communauté en fait qui maintenant n'a plus du tout de travail et même de logement et de nourriture. Donc voilà.
Et vous choisissez à chaque fois des projets où vous avez un lien avec eux ou des projets qui vous tiennent à cœur.
Ça nous tient toujours à cœur. On fait ça, on fait pas ça pour se donner bonne conscience ou donc oui. Mais après, c'est pas. Parfois, on vient vers nous. Parfois, c'est les employés qui ont un truc qui leur tient à cœur en particulier. On en parle entre nous et après, on prend une décision en fonction de tout ça.
Oui, et les employés peuvent remonter aussi des associations ou des causes via le comité que vous avez mis
oui, en voilà,
place. Oui,
voilà, tout à fait. Donc parfois, ils décident, est-ce qu'on peut, ce mois-ci, au mois de décembre, ils ont décidé de reverser tous leurs tips à une association. Ça, c'était à leur initiative et c'est eux qui ont choisi l'association. C'est pour des enfants, je crois, pour qu'ils partent en vacances. Et voilà, et donc là, c'était vraiment de leur propre initiative.
Pour parler de l'égalité homme-femme, vous avez souffert d'être des femmes dans ce milieu-là ? Enfin, ça vient...
Oui et non. Oui, parce que... Enfin, on s'en est rendu compte assez vite. À partir du moment où on a été médiatisés, en fait, en tant que chef. Donc, on en souffre parce que dans les médias, on parle de nous. Déjà, on n'utilise pas nos noms de famille. On nous a appelés des nanas, des jolies minois, les filles. Enfin, comme si on faisait la dinette au lieu de gérer des restaurants et de faire de la cuisine pour des centaines de personnes. Mais en même temps, on en bénéficie aussi parce que de plus en plus, il faut quand même mettre une femme dans cet article sur ça, ça et ça. Donc, parmi la dizaine de femmes à Paris, on est toujours plus ou moins choisies. Et donc, on a souffert. Et après, bah, comme tout le monde, il y a tellement d'anecdotes. Par exemple, quand un livreur rentre en cuisine, il regarde le seul homme dans la cuisine pour lui demander où est-ce qu'il met la livraison. Ou quand quelqu'un dit complimenter le chef sur ce repas. Enfin, les trucs classiques qu'on entend beaucoup. Mais maintenant, on a pris une décision qui est que quand on a invité à un festival ou à participer à un livre de cuisine, on demande toujours qui d'autre participe, combien de femmes participent, et on refuse de participer s'il n'y a pas une prise de conscience en fait sur une parité, et que ça soit pas, c'est pas juste les femmes mais les personnes racisées, enfin tout,
l'égalité,
parce que justement on peut se servir un peu de notre notoriété pour faire pression et faire comprendre aux gens qu'en fait on peut pas faire un livre de cuisine où il y a 100 chefs qui donnent des recettes et en avoir 10 qui sont des femmes et que tout le reste ce soit des hommes blancs, enfin c'est pas possible. Voilà, donc on essaye un peu d'utiliser notre influence pour changer ça.
Pour changer les choses, montrer qu'on peut faire les choses différemment, que ce soit à ce niveau-là ou dans l'écologie, justement, vous êtes aussi un modèle pour d'autres restaurants, de montrer que ça marche, qu'on peut avoir une brigade paritaire. Et...
Oui, voilà, tout à fait. Et Anna et moi, et Anselme d'ailleurs, on est membre du Paraberry Forum depuis le début. Donc, qui est un forum qui a lieu tous les ans sur 2 jours, qui tourne autour de la gastronomie vue à travers les femmes, où il y a 300 femmes du monde entier qui se retrouvent sur des thématiques différentes tous les ans. Et un des principes fondateurs du forum, c'est que cette idée de il n'y a pas de femmes en cuisine, on ne les voit pas. Voilà, c'est pas vrai, et qu'en fait on est extrêmement nombreuses et que il y a juste une sorte de manque de visibilité, et on propose un carnet d'adresses à n'importe qui dit bah en fait il y a que une femme à ce festival où il y a 25 personnes parce que j'en ai pas trouvé ou parce qu'il y en avait pas, voilà. Et en fait nous on propose un carnet d'adresses pour dire bah voilà, en fait tu cherches quoi, une agricultrice, une sommelière, une chef, n'importe qui, on peut proposer en fait des options.
Vous sentez que vous avez de plus en plus ce rôle de modèle pour la nouvelle génération?
Bah oui, j'espère. Après, c'est important de souligner encore une fois qu'on ne fait pas du tout les choses parfaitement, qu'on fait beaucoup d'erreurs, et ce n'est pas parce qu'on est pour l'égalité homme-femme et qu'on la prêche qu'il n'y a pas de problème de sexisme dans nos boîtes, ou qu'il n'y a pas de problème de racisme, ou qu'il n'y a pas de... Enfin, on n'est pas du tout exemplaire là-dessus, mais rien que le fait d'essayer et de le rendre prioritaire en fait est important.
Mais vous avez quand vous étiez plus jeune, vous avez manqué de modèles.
Moi, j'ai toujours travaillé pour des femmes en cuisine. Enfin, j'ai peu d'expérience en dehors de mon expérience en tant que chef d'entreprise, mais je travaillais dans 2 restos principalement, et dans les 2 cas, c'était tenu par des femmes. Donc, j'avais déjà des modèles de femmes qui s'en sortaient très bien et qui étaient assez inspirants.
Moi aussi, mais j'ai travaillé pour les deux, les femmes et les hommes, donc c'était égalité.
C'est vrai qu'il y avait, il y avait des femmes entrepreneuses dans la food à l'époque, beaucoup moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle que vous avez, il est hyper important parce que vous pouvez inspirer plein de gens à se lancer. D'ailleurs, vous avez beaucoup de stagiaires même qui viennent. C'est pas anodin, qui viennent se former dans vos cuisines. Et en plus, le fait que vous soyez mère de famille toutes les deux, entrepreneuse, ça montre qu'on peut y arriver. Et c'est un super modèle pour les jeunes.
Ouais, c'est vrai.
Et aussi, on a ce qui est cool aussi dans le fait que Tanbel existe depuis presque 8 ans maintenant, c'est qu'il y a tous ceux qui sont partis ouvrir autre chose. Et dans certains cas, on peut aussi les soutenir dans leurs projets ou parler de ce qu'ils sont en train de faire et de comment ils sont en train de monter ça. Et après, on a besoin de soutien aussi, donc on a quand même on a tendance aussi à côtoyer d'autres femmes qui ont des enfants, qui sont dans notre milieu ou même sans enfants. Mais pour parler un peu de nos problématiques et de ce qu'on peut faire pour s'éduquer, s'aider, et qu'il y ait une croissance aussi, parce que c'est des business aussi, ça il faut pas oublier que c'est pas juste on est là aussi pour gagner de l'argent, pour pouvoir créer des emplois et payer les gens, donc il y a cette dimension là qui est aussi importante. Mais c'est vrai que en tout cas, pour ce qui est de la maternité, au début, on n'était pas nécessairement. Moi, je sais que j'étais pas. J'en parlais pas toujours, en fait, du fait d'être mère. C'est venu un peu plus tard, mais qu'au début, c'était un peu comme si on allait me prendre moins au sérieux parce que j'avais eu un enfant, ou que j'allais être un peu illégitime et moins sérieuse en fait dans mon travail parce que j'avais d'autres préoccupations. Et j'en ai parlé avec d'autres chefs qui ont un peu ressenti la même chose, qui n'ont pas du tout parlé du fait d'avoir des enfants ou d'être mère, et qui voulaient juste parler de leur travail et de leur parce que on a peur en fait d'être un peu illégitime, ou alors d'être préoccupé par des choses domestiques. Et ça, j'ai appris en fait à pas penser comme ça et à essayer un peu d'en être fière, parce que, enfin, mine de rien, c'est pas facile de gérer des restaurants ou des cafés et ses enfants en même temps.
Et ça, le faire, d'être les deux.
Moi, je suis contre l'idée de l'équilibre travail-famille.
Du pro-vie perso.
parce que je trouve que c'est impossible. Et je trouve que ça met une pression énorme. Quand les gens sont là, oui, moi j'ai un équilibre parfait. Donc...
Tu fais du sport. T'arrives à aller à la piscine de 5 à 6.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je suis plus... je pense qu'il faut moins se mettre la pression et se dire que parfois on est une bonne mère, parfois on est une bonne boss, parfois on est une bonne conjointe, parfois, mais on peut pas
sceller partout.
On peut pas tout faire. Et oui, je pense qu'on a hérité ça en fait des féministes avant nous, de cette idée qu'on puisse tout faire. Et j'essaye un peu de déconstruire tout ça et de m'enlever cette pression et cette culpabilité qui pourrait être un peu immobilisante en fait, en me disant peut-être que je serai pas au top tous les jours, mais je vais faire de mon mieux. Et puis
il y a une pression énorme, je trouve, sur les femmes aujourd'hui d'exceller dans tous les domaines et d'être parfaite sans le montrer, tu vois.
Oui.
Et de prêcher autre chose, mais de... Enfin, si... On parlait de développement et de l'offre pizza, notamment, enfin, de la diversification avec les soirées pizza du jeudi et du dimanche, si je ne me trompe pas. Et vous voyez comment l'avenir, pour parler de développement, vous l'envisagez comment ?
Pour l'instant, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de consolider tout ce qu'on a déjà. Parce qu'en plus, l'avenir est tellement incertain que c'est, pour nous, c'est ça la priorité. Les pizzas, on va arrêter à la fin du mois de juillet. Donc, c'était juste histoire de faire ça l'été, tant qu'on pouvait aller être en terrasse et tout ça. Mais l'idée, c'est de consolider tout ce qu'on a mis en place là, ces deux dernières années, que ça soit en termes d'engagement écologique ou social, mais aussi en, en activité enfin économique et de développer le café en B2B parce que ça c'est bah ça arrivait en fin d'année 2019 et après on a eu le coronavirus donc on n'a pas vraiment le temps de trop développer ça donc c'est ça en fait et vu qu'on a une structure mise en place déjà pour livrer des restaurants en pain en fait le café peut se rajouter facilement et après on a des projets vraiment tout bêtes qu'on aurait dû tacler il y a longtemps mais sur lesquels on ne sait pas trop appliquer, mais des sites internet, un e-shop, des choses comme ça, que plein de gens ont peut-être fait pendant le confinement, mais que nous, on n'a pas réussi à faire. Donc voilà, donc c'est mieux communiquer aussi et après prendre des décisions un peu plus stratégiques, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses au feeling. À un peu voilà si ça passe ou ça casse pendant longtemps
pour l'instant ça passe plutôt
oui mais bon il y a quand même des erreurs où on se dit bon bah, la prochaine fois on fera pas ça et avec Anna pendant longtemps on avait notre devise perso c'est fake it till you make it donc fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives et c'était un peu souvent ce qu'on a fait. Voilà, donc, donc maintenant on essaye de prendre des décisions un peu plus stratégiques.
Et bon, ben, sur ces belles paroles, on arrive à la fin. J'ai une autre tradition, c'est de demander une recette facile à refaire à la maison à mes invités. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner ? Pas le pain, mais ou peut-être belle ou de la maison. Est-ce que vous aimez faire pour vos enfants ? Ce que vous voulez, c'est assez open.
Bon, le kadri, je sais pas si t'as déjà essayé d'en faire. dans une cocotte, il faut d'abord faire revenir les épices, donc la cardamome, de la cannelle, du cumin, un petit peu de piment, du curcuma et de la badiane. Et peut-être un peu de coriandre moulu avec des oignons. Après, on rajoute le riz et de l'eau jusqu'à... En fait, on met le petit doigt sur le riz et on met de l'eau jusqu'à la première phalange. Voilà. Et après, on porte à ébullition, on met le couvercle et après, on baisse au minimum et on laisse comme un pilaf, en fait, on fait cuire le riz. Et pendant ce temps, on fait pocher du haddock fumé dans du lait et on fait cuire des œufs mollets, 6 minutes, dans de l'eau bouillante. Et quand le riz est cuit, on effrite le haddock fumé et on le met dans le riz. Et après, on coupe les œufs mollets en deux. On les dispose dans un plat, si on a tout mis dans un plat, ou alors dans la cocotte. Et on prend un peu de persil plat qu'on
ciselé,
ouais, voilà. Et qu'on parsème sur le kadri.
Trop bon. Je crois que je l'ai déjà mangé au bal café. Ça me rappelle des souvenirs.
Et c'est un truc qu'on mange au petit-déj ou au brunch normalement. Et c'est. Ou le dîner, parce qu'on le mange aussi au dîner, mais ça date.
C'est l'époque coloniale
Ouais, c'est sous Victoria. C'est les Victoriens, en fait, qui avaient rendu ça hyper à la mode à Londres. Et c'est les soldats écossais en Inde. Donc eux ils ont apporté le côté poisson fumé qui en rentrant ont ramené cette idée du riz pilaf et auquel ils ont mélangé des ingrédients et voilà.
Et maintenant vous le faites le week-end souvent ou...
Moi j'en fais le week-end de temps en temps et ma mère le fait souvent aussi à la maison et on le fait pour le staff lunch aussi.
Bon bah comme ça on aura la recette. Merci Alice, merci Anna.
Merci.
Vous venez d'écouter Alice Quillet et Anna Trattles dans l'épisode 2 de la saison 4. Pour goûter à leur pain, viennoiserie, café, rendez-vous au Ten Pale Bread, là où elles fabriquent le pain, rue Breguet dans le 11e, au Ten Bess originel, celui de la rue de la Grange aux Belles, où vous me croiserez tous les matins, ou au nouveau rue du Cherche Midi dans le 6e. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.